Bonjour et bienvenue dans ce 30e numéro d'Anormal, qui revient sur un des événements les plus importants de cette rentrée à l'école, la fête des Lumières, qui a lieu du 10 au 13 octobre, notamment dans le cadre de la fête de la science. L'occasion pour l'école d'ouvrir ses portes au grand public, avec plus de 50 événements, conférences, visites, expositions, mais aussi ateliers pour faire découvrir à tous comment on peut faire la science aujourd'hui et à quoi elle sert. Avec ses plus de 20 000 pièces en Lego, dont 1 200 petits engrenages, la machine à calculer en Lego est l'un des ateliers démonstration phares de cette fête des Lumières. Elle attire de nombreux visiteurs, intrigués par ce qu'on appelle donc la machine de Turing en Lego, dont la construction est un grand défi réalisé par plusieurs élèves de l'ENS de Lyon. Je suis aujourd'hui avec Thomas Lambert, élève en Master 2 d'informatique à l'ENS de Lyon, qui a participé à la réalisation de la machine et qui est aujourd'hui présent avec toute l'équipe dans l'amphithéâtre Mérieux pour la présenter. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors en quelques mots, quel est le principe d'une machine de Turing normale, entre guillemets?
Alors, une machine de Turing normale, déjà, ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est un modèle théorique, c'est-à-dire ça n'a pas but d'être, à vocation d'être réalisé. C'est une idée de modèle de calcul qui a été présenté par Turing, qui consiste en gros à répondre à une question théorique. Qu'est-ce qui est calculable? Qu'est-ce qu'on peut calculer de manière automatique? Et donc il a répondu à cette question en présentant ce modèle très simple qui va en fait créer la base de la science informatique et les bases de l'algorithmique en fait.
D'accord. Et du coup, vous, en quelques mots, quel était votre défi dans cette réalisation donc, pratique?
Une des aspects, c'est déjà, c'est un côté rigolo. Enfin, la machine de Turing, comme j'ai dit, est un modèle théorique, ça n'a pas pour but d'être créé. D'ailleurs, si on dit que c'est l'ancêtre de l'ordinateur, un ordinateur actuel ne fonctionne pas de la même manière. Et donc, la plupart des machines de Turing qui ont été créées, parce qu'on n'est pas les premiers à l'avoir fait, sont plus une manière de s'amuser, disons, de réaliser un petit défi. Alors, nous, l'optique qu'on a choisie, enfin, c'est un défi qui nous a été quelque part proposé par le département d'info, c'est-à-dire de réaliser donc cette machine de Turing en Lego. On est assez vite tombé d'accord sur une contrainte supplémentaire qui était celle de retirer, disons, toute composante électronique.
D'accord, donc un sorte de double défi en plus, à la fois en Lego, à la fois le fait qu'il n'y ait aucune électronique.
Oui, en fait, les machines, on n'est pas les premiers à faire des machines de Turing dans Lego. Mais la nôtre associe de plus qu'elle n'utilise pas de composantes électroniques.
D'accord.
C'est-à-dire que les anciennes utilisaient une brique qui était programmable, ce qui retire quelques problèmes. D'ailleurs,
voilà.
Elles sont souvent plus efficaces, plus oui. rapides, mais elles passent à côté, à mon avis, du vrai défi qui est la partie, justement, disons, plus calculatoire, qui est justement
D'accord.
plus difficile à réaliser en mécanique.
Et du coup, donc, comment cette idée vous est venue? À quel moment donc, on vous l'a proposée? C'est bien ça?
On nous l'a proposée, donc. Je ne sais pas exactement de qui vient l'idée, mais donc, il faut savoir qu'en 2012, c'était le centenaire de la naissance de Turing. Donc l'année Turing, et je ne sais pas lequel dans le département info a eu l'idée si on faisait une machine de Turing dans Lego. Il nous a été proposé de faire ça en projet intégré. Le projet intégré est un cours que l'on a en M1, en informatique, qui consiste à un développement autour de l'informatique. C'est régulièrement des gens qui développent un logiciel et tout. Et cette année, on nous a proposé de faire ça, et on a décidé de relever le défi.
D'accord, donc ça rentrait en fait dans le cadre de vos études à l'école. C'était un projet finalement qui s'est intégré de lui-même dans vos études.
C'est ça.
Et dans la réalisation pratique, alors sur combien de temps ça s'est étalé, fabrication?
On avait de toute façon un semestre, donc 6 mois pour la réaliser dans un premier temps. Donc lorsqu'on a eu donc, la soutenance de projet, on a présenté une première version qui ne marchait absolument pas. Et il nous a fallu encore entre 2 et 3 mois derrière pour vraiment finaliser ce projet. Donc on peut compter entre 6-8 mois, dont la plus grande partie est bien sûr au niveau de la conceptualisation. La construction elle-même de la machine, maintenant qu'on sait à peu près la faire, ça prendrait une petite semaine.
D'accord.
Mais il y a toute la partie, donc une première partie, on a commencé à essayer de faire des plans sur papier.
Oui.
On a reçu des pièces. on s'est rendu compte que nos plans sur papier ne marchaient pas. Donc il y a toute une partie de tâtonnement, arriver à bidouiller donc, avec ces Lego sur lesquels on était très peu à avoir de l'expérience. On est, en plus, en tant les informaticiens de l'ENSSURS sont quand même très théoriques, et donc la partie pratique, mécanique, c'était vraiment pas notre truc. Donc il y a eu toute cette partie-là où on n'a pas forcément été très efficace et on a eu beaucoup de tâtonnements.
D'accord. Donc, parce que combien étiez-vous dans l'équipe du coup de base? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont rajoutées au projet entre-temps?
Alors, donc officiellement, on était 8, donc 8 étudiants. On peut rajouter notre surveillant de projet, donc Kevin, qui était notre TD-man, qui, sur la première partie donc, de cours pur, enfin, qui était encore compris dans notre cursus, ne devait pas agir, car il devait nous laisser faire. On sentait que ça le démangeait. Donc il nous aidait sur beaucoup d'aspects pratiques, du réservation de salle, tout ça. Une fois que le cours lui-même a été fini et que donc on était plus libre et qu'on est parti vraiment sur le projet, encore sur 2-3 mois, là il nous a aidé. On a aussi recruté plusieurs personnes, par exemple au niveau sur la version qu'on a actuellement de la machine. C'est une version qui a été construite notamment grâce à l'aide de petits L3 de l'époque qu'on a recruté.
Des petites mains.
Petites mains, parce qu'il y a toute une partie extrêmement répétitive. Donc la table de transition notamment est énorme et c'est plusieurs centaines de fois les mêmes
composants
qu'on retrouve. Et donc ça se paralyse extrêmement bien. Et donc, on a demandé à des volontaires qui ont été ravis de nous aider à construire des Legos.
Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez, durant la conception, rencontré des obstacles en particulier? Oui, puisqu'il y a eu plusieurs versions donc, de la machine.
Oui, à ça, on a eu énormément de problèmes. Donc, pour commencer, le fait que le Lego ne passe pas à l'échelle, en fait. Le fait que, par exemple, typiquement, donc, la table de transition, encore une fois, elle est énorme, elle fait plus d'un mètre.
D'accord.
Les premières versions comme on avait peu de pièces au début, on faisait des versions de test sur des trucs qui étaient minuscules. Et donc là, ça marchait bien, mais en fait, quand on passe un truc d'un mètre, le Lego ne le prend pas bien, en fait, n'est pas fait pour. Et donc, typiquement, sur ces moments-là, on avait quelques surprises de trucs qui ne marchaient pas. On avait aussi eu, comme on a travaillé, disons, quelque part sur des Lego, disons, idéaux, on avait ce problème, c'est qu'on a vu apparaître des frottements. On avait fait une table beaucoup plus condensée. Mais au final, il y avait trop de frottements pour que ça marche vraiment.
Du coup, plus généralement, il y a eu certainement beaucoup de répercussions sur cette construction. Est-ce que vous avez été sollicité par rapport à cette machine? Est-ce que beaucoup de gens sont venus la voir, vous interroger, du coup, encore maintenant?
Elle a eu, donc, actuellement, elle a été exposée donc, à plusieurs occasions. Donc, on a eu l'exposition qui était prévue de longue date, qui faisait partie des raisons pour lesquelles la machine était construite. C'était donc... En juillet dernier, il y avait une série de conférences sur Alan Turing et la remise du docteur Norris Cossa de Leslie Valiant.
D'accord, donc c'était à l'ENS, événement.
C'était à l'ENS,
donc,
l'ENS dont on nous a demandé de présenter la machine. Donc là, on a eu un mélange de curieux et de chercheurs qui sont venus voir la machine. Donc la seconde date importante, c'est la fête de l'école aujourd'hui. Sur laquelle, pareil, on a vraiment on a des curieux donc qui viennent de l'école, mais aussi énormément de jeunes élèves. On a eu des CE2 et trucs comme ça qui sont venus voir la machine. On a aussi présenté la machine donc à l'ISMIS, qui était une école de mathématiques pour les jeunes de 16 à 18 ans venant un peu partout, où la machine a aussi été présentée. Et on a aussi eu la sollicitation, par exemple, du CNRS, qui, lorsqu'on a fini la machine, est venu faire un petit film dessus, toujours dans l'optique de l'année Turing, en fait.
Voilà, d'accord. Donc, c'était vraiment dans...
Le film, et d'ailleurs, se retrouve très bien sur... Enfin, si vous allez sur le site, vous pouvez voir le petit film du CNRS, qui est très bien.
Oui. Est-ce qu'il y a maintenant un prochain défi, entre guillemets, autour de cette machine? Alors, déjà, il n'y a pas de version définitive, c'est bien ça? C'est-à-dire qu'elle est encore en évolution
C'est ça. Disons qu'il nous fallait une machine avant tout fonctionnelle plus que finie, c'est-à-dire que... il est évident que ce qui est intéressant, c'est qu'elle bouge. C'est-à-dire qu'on a privilégié le fait d'être capable de lui faire faire quelques trucs, donc On s'est avant tout axé sur le fait qu'elle soit capable de faire calcul. Donc actuellement, elle est capable. Ce qu'elle fait actuellement, c'est surtout renverser un mot. Mais ce qu'on veut faire au final, c'est faire une machine dite universelle. Alors, ce qu'on appelle universelle pour les machines de Turing, c'est le fait d'être capable de lire un programme et de l'exécuter. Et c'est, disons, c'est les machines qui peuvent tout faire, en fait. Et donc, pour finir ça, il nous faudrait encore ajouter quelques pièces par-ci, par-là, pour pouvoir vraiment le finir. Donc, ça, pour la machine, ce qu'on pourrait appeler une version finale, si elle existe, ce serait une version où, justement, on aurait rajouté ces pièces-là pour la rendre universelle.
D'accord. Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, un site internet consacré entièrement à cette machine, c'est le site Rubens, rubens.ens-lyon.fr.
En tapant sur Google, on doit arriver assez vite dessus, malgré la concurrence d'un peintre.
D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup et puis bonne continuation dans ce beau projet.
Merci.
Merci. Terminer cette émission à vos agendas avec plusieurs événements à venir à l'ENS cette semaine. Tout d'abord, Esprit sain dans un corps sain, venez nombreux demain, jeudi 18 octobre, dans l'amphithéâtre Mérieux sur le site Mono pour le forum santé et bien-être qui se déroulera de 12h à 17h avec notamment une grande conférence dès midi sur le sommeil intitulée « Apprendre à dormir pour mieux apprendre tout court ». Puis divers ateliers seront proposés de relaxation ou de gestion du stress. L'équipe des infirmières du service médical de l'école sera également présente pour répondre à toutes vos questions. A noter également, lundi 22 octobre, l'Assemblée Générale de l'A7 à 18h, avec au programme, après un bilan financier et moral, la réélection du nouveau bureau, qui sera suivi d'un petit pot de passation. Et enfin, lundi soir, dès 21h, le club En Slave ouvre gratuitement ses portes à tous pour la nuit du cinéma d'animation russe. Cela se passera dans l'amphibiologie-géologie sur le site Mono. Alors que ce soit par passion ou par simple curiosité, n'hésitez pas à venir voir les plus célèbres films du cinéma d'animation russe. Différentes projections sont prévues, avec notamment des réalisations de Nordstein, de Nazarov ou encore de Chorinova, pour découvrir un cinéma qui ose, avec humour ou sérieux, aborder tous les thèmes. C'est maintenant la fin de ce numéro d'Anormal. Vous pouvez réécouter cette émission et beaucoup d'autres sur le site de la radio, transistor.ens-lyon.fr. Bonne semaine à tous.